Et en fait, ils vont bénéficier de la générosité d'un certain nombre de grands bourgeois qui disposent d'une petite campagne aux abords de Bruxelles, parce qu'à l'époque, évidemment, Woluwe, Gent ou Anderlecht, c'est la campagne. Et donc, les notables ont chacun leur résidence secondaire. Et au moment où ils s'en débarrassent, où la famille s'en débarrasse, qu'est-ce qu'on fait? On propose à une congrégation religieuse, la plupart du temps, d'investir les lieux. On investit le petit château et puis on construit autour une série de bâtiments scolaire, de manière à pouvoir y enseigner. Et ce mouvement est favorisé par le fait que de nombreuses congrégations françaises qui ont été chassées de France au début du XXe siècle, tout le monde a entendu parler d'Émile Combes, la loi Combes, la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, eh bien, interdit aux congrégations d'enseigner. Et on a jusqu'à 20 000 religieux qui passent la frontière franco-belge. Une immigration à l'époque où les autorités commencent à s'arracher les cheveux en disant on croyait que le phénomène était limité et transitoire, mais non, il est permanent. Et on voit des écoles comme le Sacré-Cœur de Lintout, les Dames de Marie, l'école du Berlaymont qui était autrefois rue de la Loi, investie par des congrégations religieuses françaises.
Une autre année importante, ce n'est qu'en 1919 chez nous que l'État décide de prendre en charge le traitement de tous les instituteurs. Nous sommes avec Thierry Demey.
Point fort, jeune braillard. Point fort, odieuse cohorte pubescente.
Choisissez trois des expériences de chimie qui vous sont proposées et je veux un bilan détaillé toutes les 6 semaines. Vous réviserez les 20 questions à la fin du chapitre 1 pour lundi.
Agricolam.
Agricolam.
Agricola.
Agricola.
Agricolae.
Agricolae.
Agricolarum.
Agricolarum.
Ceux qui négligeront de rendre leur devoir terminé à temps se verront pénalisés d'un point sur leur note finale. Me mettre au défi serait de l'inconscience pure et simple.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Un extrait ici du Cercle des poètes disparus de Peter Ware avec Robin Williams, on s'en souvient. Alors, si on s'intéresse encore d'un peu plus près au patrimoine architectural de nos écoles, Thierry Demey, l'apparition en fait dans le paysage urbain de bâtiments scolaires dédiés, c'est-à-dire spécifiques, il est assez récent, ce n'est pas très, très ancien.
Non, effectivement, et ça coïncide avec le 19e siècle. Le bâtiment scolaire, autrefois, c'était le presbytère. C'était le logement du curé, c'était éventuellement même la maison de l'instituteur, et l'instituteur ne vivait pas de son métier. C'était la plupart du temps un clerc en attente de paroisse, c'était éventuellement un sacristain, c'était plus rarement un boutiquier ou un commerçant qui exerçait le métier d'enseignant à côté de son métier principal. Parce qu'il était payé, en fait, en fonction de la fréquentation de son école. Et donc, effectivement, le bâtiment scolaire est une notion moderne. À partir du moment où l'école grandit, où elle devient obligatoire, où le nombre d'élèves ne fait qu'augmenter, c'est la même chose d'ailleurs que la classe. Au départ, l'enseignant, il est devant ses élèves, quel que soit leur niveau. Et on va diviser, au fur et à mesure où la fréquentation scolaire va augmenter, eh bien, on va diviser la population en classe en fonction du niveau de connaissance. Tout ça, c'est évidemment des phénomènes, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont des phénomènes très récents.
Alors, Bruxelles, vous le disiez, va faire preuve d'une grande vitalité en la matière, en matière d'équipement scolaire communal, à tel point, et ça vous le constatez dans votre ouvrage, Thierry Demey, qu'au 19e siècle, le passage de l'âge final de l'instruction à celui du majorat, ça semble être un passage naturel.
Oui. Et non seulement ça, mais en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'écoles portent, en fait, le nom des échevins ou des bourgmestres qui ont sévi à l'époque de la construction de l'école. Robert Cato, Émile André, Émile Jacquemin, j'en passe, Charles Buls, forcément, Julien Spack. Tous ces échevins de l'instruction publique qui sont devenus bourgmestres ont aussi un nom attaché à une école.
Alors, le développement de l'infrastructure scolaire de la ville de Bruxelles prend son essor pendant la seconde moitié du 19e. Le nombre d'élèves qui fréquentent l'école publique a triplé sur la période. On passe de 4 000 à près de 13 000 unités en 1880. Un homme joue un rôle important, c'est un bourgmestre qui est entré en fonction en 1863. C'est Julien Spack. Qu'est-ce qu'on lui doit à Julien Spack?
Julien Spack, non seulement il accompagne le développement, évidemment, de l'infrastructure scolaire à une époque où il y a il y a une fort exode rural. Mm-hmm. L'industrialisation, Bruxelles est une ville industrielle, elle attire l'artisanat et l'industrie, et fatalement elle attire la population des campagnes. Et donc la population urbaine ne fait que croître, d'où la transformation de la ville. Non seulement son centre se densifie, on y fait des impasses, mais également on crée des faubourgs. Et donc ça n'arrête pas de croître, et il faut absorber. On parle aujourd'hui de croissance démographique, de boom démographique. Eh bien là, il était autrement spectaculaire qu'aujourd'hui. Et donc, Jules Anspach va accompagner ce mouvement de création scolaire. C'est lui qui va donner le terrain disponible aussi pour l'école modèle. Et c'est Jules Anspach dont le nom est évidemment attaché au voûtement de la Seine, la création des boulevards du centre. Vous savez, le fameux piétonnier bruxellois dont on parle, dont on nous rabâche les oreilles. Le piétonnier bruxellois est établi sur l'ancien voûtement de la Seine. Je vous rassure, il n'y a plus de Seine en dessous, puisqu'il y a le métro. La Seine a été détournée par les boulevards extérieurs. Mais si la ville présente cet aspect un peu haussmannien, ce grand boulevard haussmannien, c'est grâce à Jules Anspach, qui a imité en son temps Georges Haussmann, qui a transformé Paris. Ouais.
Alors, un homme encore est important lorsqu'on observe ce patrimoine de nos écoles. C'est un fils d'instituteur, un neveu d'architecte, architecte lui-même. Il se nomme Henri Jacobs. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important ?
Alors, il est important parce que c'est lui qui va, et j'intitule d'ailleurs le chapitre de mon livre, Henri Jacobs, qui transforme l'école en œuvre d'art. Mmh. En réalité, Henri Jacobs va être le seul à faire de l'art nouveau à l'école. Et avec une philosophie sous-jacente qui est extrêmement touchante. Parce qu'en réalité, il dit, les enfants, il faut les éduquer au goût du beau. Il faut les éduquer à l'esthétique, parce que ça va, non seulement ça va les rendre plus libres et ça va contribuer à leur éducation, mais quand ils seront plus grands, ils seront attentifs à cette beauté des choses et ils voudront s'entourer également d'objets et de choses esthétiques. Comme quoi l'éducation au beau est vraiment quelque chose de capital. Et c'est ce qui va accompagner toute sa réflexion. C'est un artisan, Henri Jacobs. Il fait les plans, il fait les détails, il fait même le mobilier, les luminaires. À la manière de Victor Horta, en fait, Henri Jacobs n'invente rien de ce point de vue-là, mais à la différence de Victor Horta, qui lui travaille pour des grands bourgeois qui ont beaucoup de moyens, Henri Jacobs, il doit travailler dans la sphère des budgets communaux qui sont forcément plus restreints. Encore qu'on va lui reprocher, évidemment, que ses projets coûtent beaucoup trop cher. Mais il est obligé de travailler donc essentiellement avec des matériaux industriels. Et donc, au-delà de la belle façade Art Nouveau que l'on voit, notamment rue Josaphat, à Schaerbeek, chaussée de Rodebeek, toujours l'Athénée Fernand Blum, à Schaerbeek également, qu'on voit à Uccle, à l'Athénée d'Uccle, qu'on voit encore, il y a encore d'autres exemples, l'école Vervoulousem à Woluwe-Saint-Lambert et d'autres écoles, on en compte une dizaine quand même sur le territoire de la région bruxelloise. Ce qu'on voit, c'est un bâtiment de façade qui est très luxueux, qui rappelle l'Art Nouveau avec ses formes arrondies, végétales, etc. Une fois qu'on rentre dans le bâtiment, c'est toujours aussi soigné, mais ce sont des matériaux industriels. Il utilise la brique, le fer forgé, il utilise les matériaux industriels parce que c'est une question de budget. Et ça n'empêche que les locaux scolaires d'Henri Jacobs sont toujours gais, sont toujours colorés, parce qu'ils s'entourent également de décorateurs. Il utilise notamment les talents de Privat Livemont, qui a été son complice pratiquement à travers toutes ses constructions scolaires. Privat Livemont, qui va lui dessiner des sgraffites extraordinaires et qui sont aujourd'hui encore en excellent état. On est étonné quand on va dans les écoles d'Henri Jacobs de voir non seulement combien elles sont belles, mais combien elles ont traversé le temps. La plupart de ces écoles datent d'avant 1914.
L'art déco va laisser une trace importante aussi.
Alors l'art déco, je le signale aussi, elle laisse une place mais relativement confidentielle. Et de ce point de vue-là, on ne doit pas trop le regretter. Pourquoi ? Parce que l'art déco est d'abord une période très très courte dans l'histoire urbaine. Et on va le voir notamment, l'emblématique de l'art déco à Bruxelles, c'est l'Institut des Arts et Métiers le long du boulevard Barthélemy. Incontestablement, c'est le bâtiment le plus spectaculaire en art déco, et l'Athénée royale de Kuckelberg.
Alors, l'après-deuxième guerre en Europe est marquée par une confiance dans le progrès technique sans limite, dans la croissance économique qui sont censés apporter un monde meilleur. On va assister à la mise en place du plan Marshall, donc du nom de ce secrétaire d'État américain, George Marshall, qui, avec lui, il s'agit d'un programme de prêts américains pour aider à la reconstruction de l'Europe. Quelles conséquences pour nos écoles ?
Ce qui est conséquence pour nos écoles, c'est que l'école va agir en mimétisme de l'architecture résidentielle et de bureaux de son époque. C'est une période effectivement de faste. On construit à tour de bras après la guerre et on va adopter en fait les styles qu'on adopte. Vous savez, le pavillon résidentiel dont tout le monde rêve, qui est encore aujourd'hui l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire en réalité. Donc la villa quatre façades ou le pavillon de plein pied, on va le retrouver dans les bâtiments scolaires. Ça, je dirais, c'est la face la plus sympathique du bâtiment scolaire. Vous avez à Watermael-Boitsfort, dans les cités floréales, le logis, des bâtiments scolaires. Évidemment, l'ampleur vous indique que c'est un bâtiment scolaire, mais on dirait une villa. Et effectivement, il y a un effet de mimétisme. Mais l'effet de mimétisme, il s'exerce aussi à l'égard des bâtiments bars. Les itrimaux, les amelings résidentiels vont se traduire en bâtiments scolaires extrêmement, extrêmement peu esthétiques, qui sont ces immenses bâtiments. Je pense qu'il y a les multiples Athénées et Vert, à Saint-Gilles aussi, à Anderlecht, ou encore à Watermael-Boitsfort. C'est le bâtiment scolaire avec des matériaux préfabriqués sur 6 ou 7 étages, très répétitifs, avec un couloir central et des classes où il fait toujours très chaud en été et très froid en hiver.
Voilà, tout ce témoignage donc, du patrimoine de nos écoles, témoignant de cette évolution de l'enseignement en Belgique, on peut le retrouver dans votre ouvrage, Thierry Demey, Bruxelles au tableau noir, qui paraît chez Badaud. Et je signale également un autre ouvrage qui s'appelle Sur les traces du diamant noir. C'est l'histoire du bassin minier franco-belge, toujours chez Badaud. On aura l'occasion d'en reparler à la rentrée avec vous, Thierry Demey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Un jour dans l'histoire, sur la première.